Philosophie première par le père Philippe Saint-Joseph, le 21 février 85.
Nous devons donc essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la qualité. Nous avons dit que lorsque nous interrogeons de cette manière, en voulant comprendre par rapport à l'être ce qu'est la qualité, nous pouvions dire que la qualité est une forme, une détermination. Je ne peux pas dire que la substance est une forme. D'où l'équivoque de cette formule scolastique, substance formelle. C'est vrai en théologie, ce n'est pas vrai en philosophie, ou du moins c'est maladroit en philosophie, disons ça, c'est maladroit. Il vaut mieux employer l'expression que je crois plus vraie, c'est la cause selon la forme. Parce que ça montre bien que la distinction matière et forme est une distinction qui se prend du côté du devenir et non pas du côté de l'être. L'être est au-delà de la distinction matière et forme. Ce qui est très important à comprendre, hein, ce que Gilson n'a pas saisi. Et je crois que c'est capital. Parce que si l'être se divisait en matière et forme, vous comprendriez bien qu'on serait bien obligé de dire que la matière est constitutive de l'être. Le devenir physique implique la matière. Vous ne pouvez pas penser le devenir physique sans la matière. C'est le fondement de tout devenir. Mais lorsqu'il s'agit de ce qui est vu du point de vue de l'être, donc au niveau métaphysique, au niveau où nous nous plaçons en philosophie première, nous sommes là obligés de comprendre que l'être est au-delà de la distinction matière et forme. Je vous l'ai déjà dit au point de vue méthode, hein. Comprenons toujours, quand on est en face d'une distinction, à quel moment est née cette distinction. Et ne transposons pas une distinction qui est née à partir d'une analyse du devenir sur un domaine qui est au-delà du devenir, qui est l'être. Autrement dit, partout où vous découvrez le devenir, partout où le devenir est constitutionnel de ce que vous regardez. Toutes les opérations vivantes impliquent le devenir. Toutes les opérations vivantes impliquent le devenir. Donc vous pouvez toujours distinguer toute opération vivante en matière et forme. Dès qu'il y a le devenir. Mais quand vous êtes au-delà du devenir, saisir ce qui est comme être. C'est une distinction qui est importante, hein. Qui n'est pas commode à faire pour nous, parce que nous sommes tous un peu imprégnés d'hégélianisme, même quand on ne le sait pas. On a respiré cet air-là. On l'a respiré et on continue quelquefois de le respirer. Et alors, dès que vous êtes dans l'ère hégélienne, vous ne pouvez plus distinguer l'être et le devenir. Vous n'arrivez pas à le distinguer. C'est une distinction que les Grecs ont acquise lentement. Il a fallu du temps. Quand vous regardez les pré-socratiques, vous voyez très bien comment Parménide a découvert l'être au-delà du devenir. Mais il l'a découvert à partir d'une révélation. Parce que pour lui, c'était quand même quelque chose de tellement fantastique de distinguer l'être et le devenir qu'il dit « c'est une révélation ». Pour Aristote, ce n'est pas une révélation. C'est une question d'intelligence. Une question de pénétration d'intelligence. Ça dépend jusqu'où vous pénétrez. Si vous ne dépassez pas la forme, vous n'arriverez jamais à distinguer l'être et l'âme devenir. Il y a beaucoup d'intelligence qui reste uniquement au niveau de la forme. L'intelligence, c'est de pénétrer toujours plus avant dans la réalité. On pénètre plus ou moins profondément. Vous savez, quand vous faites la recherche d'un puits, hein, Vous allez jusqu'à 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, ça dépend. Et Quelquefois, vous êtes obligé de creuser beaucoup plus profondément pour retrouver les couches souterraines. C'est une petite image, ça. Mais c'est exactement ce qui se passe dans la vie de l'intelligence. L'intelligence pénètre plus ou moins profondément. Intus legere. Ce que dit saint Thomas, et Ricoeur dirait la même chose. C'est lire de l'intérieur. C'est une lecture intime. Quand vous lisez de l'extérieur, ce n'est pas l'intelligence. C'est votre imagination, c'est votre sensibilité. Et vous restez dans l'ordre du sensible. Mais lorsque vous entrez dans le domaine de l'intelligible, alors vous lisez de l'intérieur. Et dans le domaine de l'intelligible, il y a encore des niveaux différents. La forme, c'est de l'intelligible. Mais l'être est la source de la forme. Et donc, il fallait encore plus loin. Alors, il faut bien saisir que la qualité, c'est une forme. C'est une détermination. Et la forme par excellence, c'est la qualité. On essaiera de comprendre quelle est la forme maxime talé. Hein? Qu'est-ce qu'elle est, la forme la plus parfaite comme forme? Mais je ne peux pas dire la qualité égale la forme. La qualité, elle est une forme, mais la qualité est plus qu'une forme. La qualité a ce privilège d'être orientée vers la fin de l'être qualifié. Et c'est pour ça que je peux dire que la qualité implique en plus de la forme un ordre vers la fin. La qualité est finalisée. La forme comme telle ne l'est pas. Elle est purement une détermination. Le philosophe de la forme par excellence, c'est Platon. Et le philosophe de la qualité par excellence, c'est Heidegger. Toute la différence qui existe entre Heidegger et Platon. Mais Heidegger, c'est la qualité. Je ne crois pas que Heidegger a pénétré plus avant que la qualité. Je ne crois pas. Ça serait un problème très intéressant, annexe à la qualité du reste. À regarder. Quand on lit un philosophe, il faut essayer de le comprendre par rapport au point de vue métaphysique. Hein. Si on a compris ce que c'était que la distinction entre être et le devenir, si on a compris la distinction entre être et forme, on doit essayer de voir si tel ou tel philosophe a vraiment atteint l'être. Dire penser l'être, est-ce que c'est vraiment atteindre l'être? Ou est-ce que c'est simplement le penser? Pas la même chose. Hein. Celui qui a atteint l'être fait la distinction entre penser l'être et atteindre l'être. Parce que quand j'atteins l'être, l'être, ce qui est, mesure mon intelligence. Et donc je sais que penser l'être, ce n'est pas atteindre l'être. Ça, c'est pas commode. Hein. Et c'est très important, parce que c'est là où vous faites le dépassement par rapport à Heidegger. Si vous ne faites pas ça, vous n'avez pas fait le dépassement. Et vous croyez que penser l'être, c'est saisir l'être. L'être est au-delà de la pensée. Si l'être n'était pas au-delà de la pensée, et penser l'être, c'était atteindre l'être, vous réduiriez votre réalité à votre intelligence. Quand vous dormez, est-ce que vous existez encore? Pour Heidegger, quand on dort, on n'existe plus. Puisque l'être, il est dans la pensée. Alors heureusement que Dieu pense à vous, alors vous existez encore. Mais est-ce que de fait... Vous ne pouvez pas dire ça, vous ne pouvez pas dire que penser l'être, c'est égal l'être. Vous atteignez l'être et vous pensez l'être. Oui, l'appréhension et le jugement. Petite distinction qui est capitale. Hein. Il y a des distinctions, vous savez, que certains, Aristote, saint Thomas, ont atteint. Alors, si on veut aller toujours plus loin, il faut voir si les philosophes ont atteint ces distinctions-là. C'est pour ça qu'on reste attaché à Aristote et saint Thomas, parce qu'il y a des distinctions que personne d'autre n'a fait. C'est pas parce que c'est Aristote et saint Thomas, on s'en fiche pas mal, ça. Mais c'est parce qu'ils ont atteint certaines distinctions que personne d'autre n'a fait. Alors, je vous mets en face de ce dilemme. Je sais parce que certains disent, pourquoi on parle tout le temps de saint Thomas, pourquoi on parle tout le temps d'Aristote? Ça m'a été reporté, les bruits comme ça, que certains disent, pourquoi saint Thomas, pourquoi pas les autres? Mais oui, les autres, ils existent, mais ils n'ont pas atteint certaines distinctions. Pourquoi le Saint-Père nous demande de faire de la métaphysique? C'est que si vous ne faites pas de la métaphysique, vous ne sauvez plus la théologie. C'est pour ça. C'est pas pour autre chose, vous savez. C'est pas pour le plaisir d'exalter Aristote et saint Thomas. Ils n'ont pas besoin de notre exaltation. Mais ils doivent nous éduquer. Alors, il y a des distinctions. Alors, je vous demande, à ceux qui disent pourquoi saint Thomas et Aristote, je ne juge pas ceux-là, mais ceux qui disent ça, je leur demande de trouver dans leur auteur préféré la distinction du jugement et de l'appréhension. Et je leur demande qu'ils soient honnêtes, hein, parce que quand on dit ça, on doit être honnête jusqu'au bout. Toute parole qu'on dit doit correspondre à une vérité. Autrement, on n'a pas le droit de le dire. C'est du bavardage. Donc ça correspond à une vérité. Alors si on dit une parole comme ça, il faut aller jusqu'au bout. Alors je relève le défi. Et je demande à ceux qui disent ça de me trouver dans leur auteur préféré, qui soit Hegel, qui soit Descartes, qui soit, je ne sais pas, Heidegger, de trouver dans Heidegger la distinction entre appréhension et jugement, penser l'être et atteindre l'être, et considérer que l'être est antérieur à la pensée, puisqu'il est mesure de la pensée. Et tant que vous n'avez pas saisi ça, vous n'êtes pas dans le réalisme. Vous êtes dans vos idées. Et vous mourrez dans vos idées. Et vous n'aurez jamais atteint la réalité. Et là, ce qui est beaucoup plus grave pour le chrétien, c'est que votre foi ne pourra pas avoir le réalisme qu'elle doit avoir et d'être contemplative. La philosophie réaliste est là pour exiger une foi réaliste et contemplative. Une foi qui reste dans les idées, qui reste dans les opinions, n'est pas contemplative. Alors nous devons tendre vers la contemplation. C'est tout notre désir, c'est tendre vers la contemplation. Alors, ça vient du Saint-Esprit, c'est bien évident. Mais l'Esprit-Saint veut que nous convertissions notre intelligence. Alors, vous voyez, ça, c'est très important de saisir là. Je le saisis là parce que c'est la qualité qui fait ça. La qualité, c'est très, très séduisant. On a tous été séduits par la qualité. Et heureusement, hein, si vous n'avez pas encore été séduit par la qualité, soyez-le. Et une fois qu'on a été séduit par la qualité, on comprend combien la qualité a une force extraordinaire sur notre connaissance humaine. Parce que c'est le lien entre l'être et le sensible, qualité. C'est, la qualité, c'est la forme. Et donc, c'est dans le domaine du conditionnement, de la forme. C'est dans ce domaine-là. Alors, comme c'est dans ce domaine-là, c'est très important de saisir la différence entre la forme et l'être. Alors, je comprends très bien, il y a des distinctions qu'on n'a pas encore atteintes, alors qu'on ait l'humilité de dire, j'ai pas encore compris. Et on n'a pas le droit de juger Aristote et saint Thomas sans avoir compris ce qu'ils disent. Parce qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de juger un auteur de l'extérieur. Mais j'ai parfaitement le droit de toujours de revenir à la réalité et de voir si certaines distinctions qui me permettent de voir l'affrontement de l'intelligence avec la réalité, ça va très loin ça, c'est toute notre vie intellectuelle ça, cet affrontement constant de l'intelligence avec la réalité, savoir où l'intelligence s'arrête devant la réalité, quelle est la différence, penser l'être, atteindre l'être. Je ne pense pas l'être. Non, c'est impossible. J'essaie de concevoir l'être dans ses diverses modalités. J'essaie de concevoir l'être dans ses diverses modalités. Quand je dis ça, je montre tout de suite le hiatus qui existe entre penser l'être et atteindre l'être. L'être est infiniment plus riche que ma pensée. Infiniment plus riche. Et donc c'est pour ça que je reviens tout le temps. Et c'est pour ça que je ne peux jamais dire que je possède une métaphysique. Non. Je tends vers la connaissance de ce qui est. Je tends. J'essaie d'atteindre ce qui est. Et c'est ça la grandeur de la philosophie première. Parce qu'elle maintient dans notre esprit une humilité. Je crois qu'il n'y a que la philosophie réaliste au niveau de la philosophie première qui peut maintenir dans l'intelligence cette espèce d'humilité. C'est-à-dire cette attitude de réceptivité. Qu'Aristote appelle l'upolepsis. C'est très très significatif. Upolepsis, on est dans une attitude d'attente. Heidegger a bien saisi ça, il a bien saisi l'attitude d'attente par rapport à Dieu, mais pas par rapport à l'être. Alors que nous, nous le disons par rapport à l'être. Nous sommes dans une attitude d'attente, la réalité nous dépasse. Et la réalité pour nous, c'est l'homme, c'est la personne humaine, c'est l'homme. Il y a toujours dans l'homme quelque chose qui nous dépasse complètement. Donc, comprenons bien, la qualité est une forme. Et la qualité et plus que la forme, parce qu'elle dit un ordre vers la fin. Alors, si je regarde la qualité, une fois que j'ai essayé de comprendre, c'est les deux dimensions de la qualité. C'est pour ça que c'est pas commode de saisir ce que c'est que la qualité au plan philosophique. Le TST de la qualité, qu'est-ce que c'est que la qualité? C'est pas commode de voir par rapport à la forme, par rapport à l'ordre vers le point de vue de la fin. Je peux dire que par rapport à la substance, la qualité va être comme une disposition de la substance. C'est-à-dire que la qualité est comme un effet de la substance. La qualité manifeste la substance. Et c'est vrai, puisque je ne saisis pas directement la substance. Donc la substance est dévoilée par la qualité. Elle est manifestée par la qualité. Et la substance, la qualité joue par rapport à la substance ce rôle de disposition. Alors comprenons bien, je ne dis pas que la qualité est une disposition, mais quand je regarde la qualité par rapport à la substance, hein, c'est ça qui est assez délicat. Le double regard que je peux avoir sur la qualité, hein, comprenez bien ça, parce qu'autrement vous faites des conflits. Alors, j'essaie de la saisir en elle-même. Parfaitement le droit. Certaines modalités de l'être, de ce qui est. Et je dis que quand je la saisis en elle-même, elle est une certaine forme, une certaine eidos, certaine forme. Et puis qu'elle est une certaine disposition, un certain ordre vers la fin. La qualité me fait sortir de la neutralité. Il y a un ordre vers une fin. Alors, si je regarde maintenant la qualité par rapport à l'usillant, par rapport à la substance, je dis que la qualité est une disposition de la substance. C'est le terme que prend saint Thomas. Alors, il s'agit de le comprendre. Ce n'est pas si commode que ça de comprendre comment la qualité est une disposition de la substance. Parce que la qualité en elle-même n'est pas disposition, mais c'est par rapport à quelque chose qui est premier. La substance est première dans l'ordre de l'être. La qualité est seconde dans l'ordre de l'être. Tandis que quand je la regarde en elle-même, je la regarde telle qu'elle est. Tandis que quand je la regarde par rapport à la substance, je la regarde donc relative à la substance. Et relative à la substance, c'est son essai. La qualité n'existe que par la substance. Elle n'existe pas en elle-même. Elle n'existe que par la substance. Par elle-même, elle est forme. Par elle-même, elle se manifeste. Par elle-même, elle séduit. Mais dès qu'elle est vague par rapport à la substance, je vois alors qu'elle n'existe que dans la substance. Et c'est grâce à la substance qu'il y a cette forme de la fin. Et la double relativité de la qualité. Relative à la substance, relative à la fin. Ce qui fait comprendre ce rôle de médiation de la qualité. Elle est intermédiaire d'une façon très étonnante. C'est pour ça que j'avais commencé par vous dire, la première chose que je vois dans la qualité, elle fait le contact. Qu'est-ce que c'est que la médiation ? Faire des contacts. C'est pas autre chose que ça. Le médiateur, c'est celui qui fait les contacts. Entre deux réalités qui sont tout à fait la fin et la substance. La médiation, c'est la qualité. Et si vous supprimez la qualité, vous allez opposer les deux. Et au contraire, si vous voyez si vous voyez le lien que fait la qualité fait ce contact. Alors, vous voyez bien comment la qualité en elle-même est forme, et donc elle est saisie immédiatement comme une forme, mais en même temps ordonnée à la fin, par son point de vue de son exister, ordonnée à la fin. Et si je la regarde alors par rapport à la substance, je dis elle est disposition. Oui, alors le mot disposition, il faut faire attention, parce que la première distinction que fait Aristote dans les qualités, c'est de dire qu'elles sont habitus et disposition. Alors vous voyez le petit équivoque, parce que c'est le même mot. Alors il faut faire grande attention. Je peux dire que la qualité par rapport à la substance est disposition. Pourquoi ? Parce qu'elle est un effet. Elle est un effet de la substance. Elle provient de la substance. La substance est source de toutes les qualités. Alors, parce qu'elle est effet, elle est relative à la substance. Elle est donc une forme relative. Or, c'est la disposition qui est une forme relative. C'est la substance qui mesure la qualité, au sens très très fort. Vous voyez bien ce double regard. Hein, c'est difficile, mais ça c'est le propre justement de la connaissance que nous avons de ces réalités secondes. Au point de vue de l'être, je ne peux pas m'arrêter à la qualité en considérant que la qualité c'est l'être. C'est un problème donc délicat de bien considérer comment la qualité est disposition de la substance, parce qu'elle est relative à la substance et qu'elle est forme. Et donc une forme considérée par rapport à sa source est comme une disposition pour permettre à la source d'atteindre sa fin. Et c'est pour ça qu'elle est disposition. Elle joue ce rôle de médiation. La disposition, c'est une forme toujours qui joue un rôle de médiation. Toujours la disposition, parce qu'elle se prend du côté de ce qui est potentiel. Pour jouer un rôle de médiateur, vous savez bien, pour jouer un rôle de médiateur, qu'est-ce que vous faites ? Vous essayez de comprendre ce qu'il y a de potentiel, donc de non déterminé, dans celui que vous devez relier à l'autre terme. Quand vous avez deux réalités qui se croient parfaitement actuées, elles s'opposent. Qu'est-ce que vous devez faire pour les relier ? Vous cherchez la précarité de l'un pour l'unir à l'autre. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Et c'est ça le point de vue de la médiation. Ça joue au point de vue psychologique constamment. Quand vous êtes en face de deux personnes qui ne se comprennent pas, vous êtes le confident de l'un et de l'autre. Et comment puis-je aborder ce besoin ? C'est impossible, elle est suffisante. Hein, dès que je suis là, immédiatement. Et c'est comme ça. Les êtres, quand ils sont un peu timides, dès qu'ils sont timides, ils se bloquent un peu. Et alors on a deux blocs de farine, l'un en face de l'autre, qui sont totalement suffisants. Impossible de les relier. Qu'est-ce que vous faites si vous voulez jouer un rôle de médiateur ? Vous cherchez la fragilité d'un côté ou de l'autre. Et par là, vous pouvez comprendre comment on est capable d'être actué. Dès qu'on est capable d'être actué, on devient relatif à l'autre. Et donc, il y a une possibilité de contact. Alors, la qualité, c'est ça qui est très curieux et c'est ça qui est intéressant au point de vue philosophique. La qualité prise en elle-même, mais elle est déterminée. Donc, je dirais la qualité, pas besoin de la substance, la qualité. Quoi. Elle est déterminée, elle est forte, elle est déterminée. Attention, la qualité implique un ordre vers la fin. Dès que vous dites qu'elle est un ordre vers la fin, vous voyez la qualité dans son appétit vers quelque chose qui la dépasse. La qualité est dépassée par la fin, est ordonnée par la fin. Et la qualité est disposition de la substance. Voilà les deux aspects par où je saisis que dans la qualité, je ne suis pas en face d'un être qui a son autonomie parfaite. La qualité au plan métaphysique est un accident. Un accident qui peut être très très important, qui peut être capital, un accident qui peut se manifester d'une façon étonnante, mais la qualité est satellite de la substance, elle est un accident. Elle n'est pas première. C'est pour ça que je vois bien, vous voyez, si vous ne faites pas la distinction entre forme et être, si vous ne faites pas la distinction entre la forme, la détermination et ce qui est comme être, c'est-à-dire la substance. Si vous ne faites pas la distinction entre la forme et la substance, la qualité va devenir la chose principale. Puisqu'il y a dans la qualité une certaine splendeur de la forme, puisqu'elle implique un ordre de la fin. Ce que la forme ne dit pas. Je ne dis pas que la forme est médiatrice, mais la qualité l'est. Elle fait le lien entre la fin et la substance. Ça, il faut beaucoup réfléchir là-dessus. Réfléchissez sur toutes les qualités que vous avez, c'est facile. Ça. On aime bien de réfléchir sur ces qualités. Alors, réfléchissez sur les qualités que vous avez. Eh bien, vous verrez, si vous y réfléchissez métaphysiquement, pas psychologiquement, mais métaphysiquement. Si vous réfléchissez métaphysiquement sur les qualités que vous avez, vous voyez que vos qualités jouent ce rôle très particulier d'être des liens entre votre solitude et la finalité. Il faut faire appel à ces qualités pour sortir de l'égocentrisme substantiel. Vous savez, il y a toujours un danger, hein. Se replier sur sa substance en disant « ça me suffit, je suis un être substantiel. Regardez-moi, je suis un être substantiel, ça me suffit. » La substance appelle la solitude. La qualité appelle le contact. Elle fait sortir la substance de la solitude. Et c'est pour ça qu'il y a des fausses humilités, vous voyez, des fausses humilités. Des complexes d'infériorité, des fausses humilités, c'est la grimace de l'humilité. Les complexes d'infériorité, c'est la petite plante sensitive qui se replie sur elle-même. Ah, moi, je suis fait pour la solitude, voulez-vous. Impossible autrement, aucun contact possible. Chaque fois que j'ai un contact avec quelqu'un, c'est malheureux. C'est désastreux. Donc, je suis fait pour la solitude. Je me replie, la petite plante se replie, vous voyez. C'est une espèce de sensibilité qui peut aller très loin, du reste, qui peut être très belle. Parce que c'est une sensibilité profonde à l'intériorité. Mais un manque de contact. Parce que par humilité, vous ne regardez plus vos qualités. Par humilité, vous dites « Ah non, moi j'en ai pas, je vois les celles des autres, oui. Ils sont bien plus intelligents que moi. Ils ont bien plus de cœur que moi. Ils ont bien plus de force que moi. Ils sont bien plus capables que moi. » Et ainsi de suite, hein, tout ça. Alors vous faites un petit complexe d'infériorité. Ou un complexe de supériorité, les deux se tiennent, hein. Complexe d'infériorité, complexe d'infériorité. Et alors, le complexe de supériorité, vous vous dites, moi, je me suffis. Les autres, pas grand-chose. Donc, pas la peine. Chaque fois que j'ai contact avec eux, j'en sors diminué. complexe de supériorité. Et alors, c'est la substance, c'est très curieux, ça. Métaphysiquement, il y a quelque chose là qu'il faut essayer de comprendre. Cette espèce de possibilité d'isolement, l'autarkeia. L'autarkeia de la substance. Hein. La substance implique ce point de vue de la solitude. Bien, la qualité fait sortir de cette solitude. La qualité, c'est vraiment de l'ordre de la médiation. Alors, vous avez les grandes qualités métaphysiques de l'homme, c'est l'intelligence et la volonté. Alors, ce serait intéressant de voir s'il développe le fait de se replier, de ne pas regarder son intelligence, est-ce que ça vous conduit au complexe d'infériorité, ne pas regarder la volonté, et ainsi de suite. Parce que les deux, je suis persuadé qu'il y a des liens. Mais les deux grandes qualités au plan de l'esprit, de l'homme, c'est ça qui m'intéresse, c'est le point de vue de l'intelligence et le point de vue de la volonté. Alors, vous mettez entre parenthèses votre intelligence. Je suis bête. Personne n'est bête par nature. Mais on le devient. Alors, personne n'est bête par nature. Et on devient bête, c'est très vrai, on devient bête par un complexe d'infériorité. Alors on se referme sur soi. Parce que l'intelligence a besoin du contact. L'intelligence ne progresse que quand elle touche l'autre, quand elle découvre l'autre. Et un être vraiment intelligent aime toujours de chercher ce qui, justement, est autre. Et le plus autre, pour s'enrichir. Parce que si je recherche toujours le semblable, au bout d'un certain temps, je risque de projeter ma similitude sur l'autre. Je ne sors pas de mon égoïsme. Et je ne suis tranquille que lorsque je suis en face de mon semblable. C'est-à-dire celui qui a les mêmes qualités que moi. Et en réalité, c'est les qualités que je cherche. L'intelligence, vous voyez, l'intelligence est faite pour le contact avec l'autre. Vous voyez bien, elle fait sortir la substance de sa solitude. Un être intelligent pourra être solitaire, mais d'une solitude avec l'autre. C'est-à-dire, en réalité, ce n'est pas du tout l'isolement, c'est la contemplation. La volonté nous fait aussi sortir du bien qui nous dépasse. Ça me fait aimer, connaître et aimer. Les deux grands mouvements, les deux grandes médiations. Alors, j'ai d'autres médiations beaucoup plus visibles. J'ai des qualités sensibles qui me permettent tout de suite d'accrocher. J'ai des atomes crochus. Il y a des gens qui ont des atomes crochus, il y en a qui n'en ont pas. Alors, tout de suite, dès que je comprends quelqu'un, je... Et c'est vrai, il y a des personnes qui ont des possibilités de contact étonnantes. Ça fait partie des qualités sensibles. C'est pas toujours l'intelligence. Parce que ce sont des contacts brillants du début. Ça ne dure pas. Tandis qu'il y a des gens qui ont un contact beaucoup plus difficile, mais alors qui va beaucoup plus loin. Et ça, c'est toute la question des contacts. La philosophie des contacts. Hein. La philosophie des contacts, c'est la qualité. Ce n'est pas la présence. C'est la philosophie des contacts. C'est la médiation. C'est la qualité. C'est tout, tout repose. Toute une philosophie de la médiation repose sur la qualité. Pas sur la substance. C'est peut-être pour ça, du reste, hein, que la scolastique, sclérosant un tout petit peu la philosophie uniquement sur la substance, n'a plus d'où regarder le contact. Alors elle s'est isolée, dans un complexe d'infériorité. Alors elle s'est fermée sur elle-même, et elle est devenue bête. Oui, la scolastique décadente est devenue bête. Elle a perdu sa noblesse, parce qu'elle n'a plus eu contact. Alors que l'intelligence demande ce contact, et réclame ce contact. Tout en respectant que de fait, il faut tout le temps venir à la substance, puisque c'est ça qui me donne mon autonomie. Et que c'est la substance qui permet d'être relié à la fin. C'est pas la qualité. La qualité permet le contact. Mais c'est pas elle qui finalise au sens absolu. Elle est le lien avec la fin. Elle n'est pas la fin. Donc vous voyez, ceci c'est pour essayer de comprendre un tout petit peu, transposer certaines choses que nous voyons au point de vue philosophique, comprendre que ça touche des réalités constantes hein, de notre vie. Et que nous essayons, si nous voulons les étudier en profondeur, les ramener à ce qui est. Et la qualité doit être vue de cette manière-là. Alors il y a une grande étude qu'il faudrait faire ici, au point de vue proprement philosophique, voir la diversité des qualités. Alors, pas du tout comme Aristote le fait dans son livre des catégories, mais voir la diversité des qualités au niveau proprement métaphysique. Après avoir vu ces deux aspects, je crois très importants, forme et unis par la qualité. Double relation de la qualité vis-à-vis de la substance ou vis-à-vis de la finalité. Comprendre un peu ce que représente la diversité des qualités. Je crois qu'on peut dire que la qualité la plus qualitative, c'est celle qui va donc impliquer la détermination la plus grande et l'ordre vers la fin le plus immédiat. Puisque c'est ça qui commande tout. Là, nous devons chercher, faire l'inventaire de nos qualités. Vous avez déjà fait l'inventaire de vos qualités, n'est-ce pas ? Faites l'inventaire de vos qualités, cherchez un tout petit peu ce que représente l'inventaire de vos qualités. Eh bien, la qualité par excellence, c'est l'habitus de sagesse. Il s'agit de comprendre. Maxime est allé dans l'ordre de la qualité. Si je veux comprendre vraiment ce que c'est que la qualité, je dis que c'est l'habitus. Sagesse acquise. Cela qui me qualifie de la manière la plus profonde. Alors, je pourrais me demander, dans la hiérarchie, toujours demander l'autre extrême. On va les expliquer, parce que c'est intéressant de voir l'habitude de sagesse. On parle souvent de la sagesse, et trois sagesses de Saint Thomas, qu'est-ce que ça veut dire hein? Oui, c'est quand même intéressant de voir que dans l'ordre qualitatif, il n'y a pas une qualité supérieure à l'habitus de sagesse. Et l'habitus de sagesse, saint Thomas nous dit, c'est habitus contemplativus. Là encore, c'est un moyen, vous voyez. Quand vous voulez jauger une philosophie par rapport à une autre, voyez ce que le philosophe dit sur la sagesse. Vous voyez tout de suite la qualité d'une philosophie. S'il n'en dit rien, un degré inférieur, ça n'a jamais monté jusque-là. Parce que si ça avait monté jusque-là, il dirait oui, une habitude de sagesse, c'est la qualité par excellence. Mais c'est intéressant de voir ça, parce que là on retrouve, vous voyez, des choses qui pour nous sont importantes quand même. Quand je lis le livre de la sagesse, hein, j'ai demandé la sagesse, elle m'a été donnée. Comme là, la chose la plus excellente, je l'aimais plus que l'or et l'argent, je l'aimais plus que toutes les autres. C'est la qualité par excellence. Donc, en définitive, c'est peut-être ça qui va me permettre de comprendre ce que c'est qu'une personne qualifiée comme personne. Si c'est vraiment la qualité par excellence, hein. C'est un très beau jeu, ça, ce serait une question disputée, merveilleuse à faire. Hein. Voir l'ordre des qualités, c'est très très important. Et c'est, je crois qu'il n'existe pas de test de cette manière-là. Mais ce serait le test philosophique. Vous voyez, le test philosophique, ce serait de définir l'ordre des qualités, la hiérarchie des qualités. Voir comment chacun d'entre nous, parce que nous avons chacun une petite hiérarchie des qualités. Et 5 minutes de réflexion, et puisque maintenant vous voyez ce que c'est que la qualité, eh bien, examen de conscience, métaphysique, n'est-ce pas ? Quel est l'ordre des qualités en vous ? Comment voyez-vous l'ordre des qualités ? On fait toujours un examen par rapport à ses péchés. Il n'est peut-être pas mauvais au point de vue philosophique de faire un examen par rapport à ses qualités. C'est pas si mauvais, ça. Alors, hiérarchisez vos qualités. Quelle est pour vous la qualité dominante? Ça révèle des tas de choses. On va dire ça comme test. Pour voir si on a la vocation ou pas. C'est test, c'est la hiérarchie des qualités. Pas la hiérarchie des défauts. Parce qu'il n'y a pas de hiérarchie là. Et puis on est tous dans le même. Dans la même boue. C'est l'orgueil. Vous voyez, tandis que là, l'habitude, c'est les qualités, ça nous diversifie, c'est des contacts différents. Quelle est la qualité dernière? La qualité dernière. L'ultime qualité. Eh bien, je crois que c'est la figura. On va essayer de comprendre. La figura, la physionomie. C'est très curieux. La figura intérieure de votre esprit, c'est l'habitude de sagesse. C'est votre manière d'être face à la réalité suprême. Nous avons tous une manière particulière d'être quand nous contemplons. Il y a une figura extérieure. Il y en a qui sont étendus par terre, d'autres qui sont assis dans un fauteuil. Je connaissais quelqu'un qui ne pouvait contempler que assis dans un fauteuil. Et alors à ce moment-là, il contemplait. Tant qu'il n'était pas assis dans un fauteuil, il ne contemplait pas. Une chaise passée, les gants, vous comprenez, la figura sur une chaise. Non, ça ne va pas. Vous êtes dans un bon fauteuil, mais un bon. Alors là, figura de la contemplation. La contemplation, la figure intérieure, la contemplation, la figure de l'âme, la figure de l'esprit qui contemple les sommets de mon esprit. Vous voyez, quand vous êtes en face d'un alpiniste, un guide qui connaît parfaitement tout, il ne s'intéresse jamais au bas de la montagne. Il s'intéresse toujours au sommet. Et c'est les sommets qui sont différents. Les pics, les glaciers, c'est toujours différent. Toujours la diversité énorme. Un pic de l'âme, l'habitus de sagesse. La qualité particulière. Et la qualité particulière d'une philosophie, c'est de savoir dans quelle mesure elle va pouvoir parler de cette habitus de sagesse. C'est ça qui est intéressant. Au fond, la philosophie, c'est de pouvoir parler de la sagesse. Pouvoir nous dire quelque chose de la sagesse, quelque chose de vrai, et de mettre en nous cette disposition profonde, cet habitus de contemplation, d'acquérir profondément cette attitude de l'intelligence qui non seulement cherche la vérité, mais contemple la réalité suprême. C'est plus encore que de chercher la vérité. Parce qu'on peut chercher la vérité indéfiniment sans jamais contempler. Alors on est des chercheurs. C'est très bien d'être des chercheurs, on n'est pas des contemplatifs. La recherche, nous verrons, c'est une certaine qualité. C'est une certaine qualité de l'intelligence, la recherche. Mais ce n'est pas ce qu'il y a d'absolu. L'absolu, on s'en fatigue de la recherche. C'est très très bien, c'est sportif la recherche. C'est très bien jusqu'à un certain âge. Après, si on n'a pas atteint une certaine attitude contemplative, on s'en fatigue. Tandis qu'au contraire, si il y a l'habitus de sagesse acquise, s'il y a cette attitude contemplative, tout s'éclaire dans cette lumière. Tout se renouvelle tout le temps dans cette lumière. Parce que c'est un habitus qui atteint le sommet. Habitus contemplative. Habitus contemplativus qui atteint en réalité le Dieu. C'est de m'être le plus proche, de mettre mon esprit le plus proche possible du Dieu créateur, que je peux atteindre par mon intelligence. Par mon intelligence, pas par ma raison, par mon intelligence liée à l'amour. L'habitus de sagesse, c'est le lien le plus profond entre l'intelligence et l'amour. C'est le lien le plus profond entre l'intelligence et ma capacité d'aimer. Et c'est le lien le plus intime. D'habitude, quand je suis dans la recherche, je distingue l'intelligence qui raisonne, qui cherche, et ma capacité d'aimer. Tandis que lorsque je suis arrivé au sommet et que je peux essayer de contempler, à ce moment-là, il y a une espèce de coalition, d'alliance, c'est une alliance, entre l'intelligence et la volonté, entre l'amour et l'intelligence. Et l'amour permet à l'intelligence d'aller plus loin. L'amour s'efface devant l'intelligence, et l'intelligence, je ne dis pas qu'elle s'efface, mais l'intelligence se purifie par l'amour. Et l'intelligence devient ultimement réceptive par l'amour. L'amour maintient dans l'intelligence la réceptivité. Et l'intelligence, si elle n'est pas portée par l'amour, enveloppée par l'amour, l'intelligence, très facilement, fait des alliances avec le point de vue de la domination. Un être intelligent qui n'est pas contemplatif domine. Un être intelligent qui est contemplatif écoute. Il est réceptif. Il maintient sa réceptivité par la contemplation. Il est toujours en attente parce qu'il est pour être relatif.